Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Merci d'écouter RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Avec moi dans le studio, Philippe Guyot, bonjour.
Bonjour.
Accompagné de Florian Fage, bonjour.
Bonjour.
Tous les deux pour nous parler de la transe d'Iwaze. Qu'est-ce donc ?
La transe d'Iwaze. Tout le tour du Diwa en quelques années.
En quelques années ?
En quelques années. Oh, on prend notre temps.
Donc on partirait bientôt, hein, c'est-à-dire voilà. le 13 juin.
En fait, on est parti en 2005. Ah. Ça fait un moment qu'on crapahute là. Hein.
Voilà. Et on n'est toujours pas arrivé. Donc vous
on
n'est pouvez...
toujours pas arrivé, mais il faut dire qu'on avance de 3 jours seulement chaque année.
Cessons d'embrouiller l'auditeur. Un petit historique. Qui veut nous faire l'historique de la transe d'Iwaze ? Qu'on comprenne pourquoi on n'avance que 3 jours par an ?
Eh bien, chaque année... L'association des accompagnateurs en montagne du Diwa propose à tous ceux qui veulent participer 3 journées de randonnée itinérante, avec comme ligne directrice, effectivement, de faire sur 12-13 ans, peut-être, un grand tour du Diwa. En 2005, on est parti de Valdrome. De Valdrome, on a longé les crêtes, enfin, on a sillonné des vallées, passé des cols, etc. En 2009, on traversait la Drôme au niveau de Saillant. En 2010, si je me souviens bien, on abordait le Vercors. En 2011, en 2012, on était sur les hauts plateaux du Vercors. Et l'année dernière, au mois de juin, on est arrivé à Luz-la-Croix-Haute. Et cette année, les 13, 14 et 15 juin, on va faire 3 jours de randonnée itinérante en revenant à Luz-la-Croix-Haute. Parce que les crêtes qui font la limite du Diwa font en fait la limite de la commune de Luz-la-Croix-Haute, qui est suffisamment grande et variée pour que cela nous fasse 3 belles journées de randonnée.
Ouais, c'est ça, il pourrait y avoir un tour de Luz tout seul déjà. Il faudrait peut-être quelques années à 3 jours pour
ouais,
tout faire.
Ne soyons pas chauvins quand même.
Ah oui, parce que c'est vrai que Philippe Guyot vient de Luz, hein, on précise. Vous êtes tous les deux accompagnateurs en montagne, donc.
Tout à fait.
Tiens, Florian, depuis combien de temps ?
2006. Et pour ma part, j'alterne avec la charpente et l'accompagnement en montagne. Voilà. Ça va être la 2e édition que je suis de la Transe d'Iwaze. Et c'est une belle aventure déjà.
Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de ce métier d'accompagnateur en montagne ?
Ouais, c'est le terme un peu lourd de brevet d'État qui nous donne une formation sur plusieurs tronçons, je dirais chapitres, le tronc commun montagne, l'UF hivernal, l'UF estival, et avec un examen final. On doit présenter un mémoire aussi sur un thème de notre choix. Donc ça peut aller d'une spécificité d'un massif sur une flore, faune ou même une activité comme les animaux de bas, comme c'est mon cas.
C'est-à-dire qu'on mêle dans ce brevet d'État à la fois de la technique, on va dire, pure, l'étude de toute la morphologie. Je pense qu'il y a ce bon vieux tronc commun où il faut apprendre tous les os, tout ça.
Voilà, ouais, tout à fait. Ouais.
Et puis... un aspect de la montagne quand même.
Oui, l'UF fondamentale, l'unité de formation fondamentale où on voit vraiment tout le milieu montagnard, aussi bien sur le plan humain que faune-flore, voilà, ouais. Structure, tourisme, c'est assez large, c'est une belle formation. Ouais.
Alors toi tu l'as passé en 2006, Philippe, c'était bien avant, est-ce que ça a changé ? Est-ce que c'est...
Alors moi j'aurais bien du mal à parler du diplôme parce qu'effectivement il date de 87.
Donc, pas eu besoin de le passer, c'est ça ?
Si, j'ai eu besoin de le passer quand même, c'est un petit souvenir. Mais en fait le challenge c'est d'arriver de vivre avec. Et en fait ce qui est merveilleux dans ce métier c'est que c'est un métier où chacun est amené à inventer son propre métier. parce qu'il y a autant de manières de faire le métier d'accompagnateur qu'il doit y avoir d'accompagnateurs sur le territoire.
J'ai bien aimé la formule. Le plus dur, c'est d'en vivre, hein, finalement.
Oui,
enfin,
ça.
Du moins, ou de se renouveler dedans.
Ça va avec, hein, en fait. Hein, parce qu'en fait, l'accompagnateur, bon, c'est un généraliste de la montagne. Hein, il va parler un petit peu des petites fleurs, des animaux, de l'histoire, de la géologie. Il va assurer la sécurité. Il va monter les itinéraires. Il y a une partie logistique qui est importante. Hein.
L'entretien aussi, un peu des sentiers, ce genre de choses.
On n'a pas, malheureusement... Hein,
pas le temps.
Non, ce n'est pas qu'on n'a pas le temps, mais c'est qu'actuellement, c'est encore assuré par des associations. Et nous, en tant que professionnels, ce n'est pas tellement un secteur où on intervient. Sauf sur certains... Il y a certains massifs, il y a certains secteurs, mais localement, on n'est pas... Disons, ça... On ne fait pas l'appel à nous.
Vous n'êtes même pas force de proposition pour dire, tenez, là, il se passe quelque chose d'un peu bizarre.
Alors, on est localement...
Témoin quand même de la montagne.
Je pense que dans notre petite association là, des accompagnateurs en montagne du Diois, il y a quand même à nous tous une connaissance du terrain qui est assez unique, je pense. Et je crois qu'effectivement, enfin, nous, on se positionne comme pouvant... faire un travail d'expertise, en fait, hein, par rapport aux sentiers. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un métier qui est encore relativement nouveau. Il y a aussi une pratique ancienne de la randonnée dans des cadres associatifs, dans des cadres amicaux. Voilà, on ne vient pas avec nos gros sabots en disant ben voilà, nous, on est des pros. Non, on est là. Chacun a inventé, en fait, ce qu'on va pouvoir proposer en fonction de notre personnalité, de manière à permettre à des gens qui ne sont pas montagnards, qui viennent des villes, qui viennent d'un petit peu loin, ou voilà, de découvrir ce pays sur tous ses aspects. Ceci, ben, y a énormément, énormément de manières de le pratiquer. Je dirais que dans la mesure où on n'apporte pas une technicité très importante, comme un guide d'haute montagne, en fait, chacun d'entre nous, on vend notre personnalité dans ce milieu de la montagne.
On pourrait la dévoiler puisqu'on est avec toi, Philippe. Toi, tu aimes bien les ânes, par exemple ?
Alors, je ne travaille pas avec des ânes, je travaille avec des mules.
Mules, pardon.
J'ai l'habitude de dire que si on traite mes mules d'ânes, je ne suis pas content du tout.
Ah bah alors, je me corrige tout de suite. Donc voilà. Toi, tu aimes bien les mules.
Alors, en fait, moi, j'ai trouvé le moyen de synthétiser en fait trois passions. La montagne, le voyage et les équidés, les chevaux. Et la manière de le synthétiser, c'est effectivement de proposer des voyages en montagne sur plusieurs journées, voire plusieurs semaines, avec des mules de bas. Voilà.
Donc, pour porter les bagages, c'est bien pratique.
Voilà, les mules sont des animaux assez extraordinaires. Les anciens, ils diront pas le contraire, ceux qui ont... connu les mules dans les montagnes avant qu'elles ne soient remplacées par les tracteurs. C'était vraiment un animal extrêmement polyvalent qui rendait tous les services, en fait, porter, tirer, tracter, débarder, labourer, et qui était monté aussi en tant que, comme on monte un cheval. Hein. Voilà, donc c'est vraiment un animal extrêmement polyvalent. Et c'est un animal qui a une intelligence de la situation en montagne qui est remarquable.
Moi, qui appréhende comme ça, qui fait attention. Enfin...
Il a le sens de l'endroit où il faut passer. Moi, plusieurs fois, parce que quand je suis dans la montagne avec deux ou trois mules, j'en conduis une, puis les autres suivent. Parfois, elles ne passent pas exactement à l'endroit où elles choisissent leur itinéraire. Et en général, c'est moi qui me retourne pour dire bravo, t'es passé au bon endroit. Voilà. Non, c'est... Ce sont des animaux, en plus, une générosité. Ah, une générosité, elles ont une force extraordinaire. On met 100-150 kilos sur une mule. Bon, ben, quand on voit un animal qui est chargé comme ça de toute notre nourriture pour une petite semaine en montagne sans devoir redescendre dans la vallée, qu'on la voit passer dans les éboulis, qu'on la voit passer sur les crêtes effilées, voilà, on dit bravo, merci.
Merci, tu m'apportes mon petit confort dans la montagne et c'est super.
Ça, c'est quand même un sacré plus pour cette randonnée. Florian, toi, c'est quoi ta particularité ?
Eh ben, elle rejoint assez celle de Philippe, puisque j'ai fait mon mémoire justement d'accompagnateur sur les animaux de bas. Alors du coup, j'en avais profité pour voir un peu tous les animaux au travers du monde entier et un peu les spécificités de chaque région. L'Himalaya avec les yaks, le lama Amérique du Sud, bref. Tout en revenant centré sur les animaux qu'on utilise la plupart du temps ici en Europe, en France. Et c'est vrai que c'est une véritable collaboration avec les mules. C'est-à-dire qu'elles peuvent partir en montagne parce que nous, on a besoin d'elles. Et elles nous permettent de rester le plus longtemps en montagne sans devoir redescendre dans la vallée. Ce qui nous donne des possibilités d'itinéraire qui sont autre que simplement la journée ou
ouais, la petite boucle
voilà.
Avec un bivouac et puis c'est tout.
Et du coup c'est vrai que on est gagnant dans ce truc là.
Donc toi aussi tu conduis maintenant, tu proposes ça?
Ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois de pouvoir vivre cette expérience là et puis je suis motivé pratiquement entièrement par ça. Ouais. Vu que c'est un animal imposant, on ne peut pas le donner en location comme des ânes, comme ça, à des familles où, effectivement, l'âne est un peu plus malléable et vachement docile. Une mule, ça a un peu plus de corpulence d'abord. Du coup, c'est vrai que les randonneurs, ils n'ont pas forcément l'aisance qu'ils pourraient avoir avec un plus petit animal. Du coup, c'est vraiment intéressant de faire la transition entre l'animal et les randonneurs et puis de voir comment le contact s'établit. Le plus, et ça rejoint avec l'âne, c'est qu'en rando, le fait d'être avec un animal de bas, ça donne une autre interaction avec le milieu naturel. En fait, la mule, elle sert aussi de médium, je dirais, entre le milieu naturel et puis le groupe de randonneurs. Parce que c'est un animal, donc entre guillemets sauvage, qui dort dehors. On le découvre tout autant que le paysage et la montagne qu'on traverse, quoi.
Est-ce qu'il prend pas d'ailleurs un peu le pas dessus, du coup ?
Par moment, oui. Oui.
S'il faut être concentré sur l'animal, des fois.
C'est vrai que bien qu'elle soit super intelligente, elle met pas le bas tout seul, elle fait pas les sacoches, elle fait pas le café. C'est très rare, hein, quand même.
Zut, alors.
J'ai essayé de l'adresser, mais non. Non, je dirais ce qui est fabuleux là dans cette approche, c'est que c'est cette idée du voyage dans sa globalité. En fait, parce qu'on part en montagne sur 4-5 jours, 6 jours, voire 2 semaines, et on n'a pas besoin de redescendre dans la vallée. Hein, donc en fait, le soir, on pose sa tente, on fait le casse-croûte, on vit le matin, on peut dormir à la belle étoile aussi, profiter du lever de soleil. Le matin, on plie les tentes, on plie le camp, on met tout ça dans les sacoches. C'est aussi une technicité, hein, ça c'est aussi pour cela qu'on ne peut pas faire de la location de mule comme on fait de la location d'âne, et qu'on ne met pas les 550 kg sur une mule de la même manière qu'on range 40 kg sur le bas d'un âne.
Petit 40 kg. Voilà, non, mais viens, on continue de détruire l'âne. Je suis très désolé d'avoir parlé d'âne. Je m'en veux.
Non, mais je ne pense pas qu'il vaille les opposer. Hein. Ouais, ça correspond.
Ce n'est pas la même chose.
Voilà, c'est pas la même chose. Ils ne font pas le même travail. Et ce qu'on vit est avec une randonnée avec les mules, c'est pas la même chose que ce qu'on va vivre dans une balade avec les ânes. Voilà.
J'aime bien quand même l'opposition. Une randonnée avec des mules ou une balade avec des ânes. Soyons clairs. Allez, on revient à cette transe d'Iwaze, puisque vous êtes là pour ça quand même. Hein. Mais c'était bien de savoir ce que vous proposiez, comment vous vivez aussi. Cette transe d'Iwaze, donc du 13,
14 et 15 juin.
Au 15 juin. Un parcours autour de Luz-la-Croix-Haute. Alors, c'est pour qui déjà ?
On propose, l'architecture hein, de la manifestation. Chaque journée, il y a plusieurs groupes qui partent sur des itinéraires différents. Chaque groupe est encadré par un accompagnateur et on propose des itinéraires de niveaux différents. L'itinéraire qu'on dit familial ou cool, qui va correspondre à peu près à 4 heures de marche avec peut-être 400-500 mètres de dénivelé maximum. Puis il y a les itinéraires montagne, et puis il y a cette année en plus à Luce des itinéraires vraiment alpins.
Oui, voilà. Et ça tutoie la haute montagne d'ailleurs là-bas.
Alors,
vous avez
ça tutoie. Oui, on a un côté très escarpé sur les crêtes du Dévoluy là-haut. C'est vraiment de la très très belle randonnée alpine.
Je ouais. crois même que le Grand Ferrand est théoriquement classé haute montagne, non? C'est pas ça?
Oui, je ne sais pas quel est le classement.
Vous, ça vous intéresse haute pas,
montagne.
Pas.
Alors, non, je dirais par rapport à la... si c'était une question de prérogative par rapport à l'accompagnateur ou oui. le guide. Non, le Grand Ferrand, il est tout à fait dans les prérogatives de l'accompagnateur. Ça reste de la randonnée, hein, comme l'Obiou, mais c'est de la randonnée relativement aérienne et alpine. Mais ce n'est pas de la randonnée où on a besoin de faire appel aux techniques de l'alpinisme, puisque c'est là-dessus que s'établit le critère de la note limite de territoire avec les guides de haute montagne.
D'accord, c'est-à-dire des cordées, un équipement spécial des...
Voilà, à partir du moment où il est logique sur l'itinéraire de sortir des crampons, un piolet, une corde, des coinceurs, etc., c'est plus notre territoire. Bon. Voilà. Par contre, à partir du moment où on peut progresser en mettant un pied devant l'autre, sans que ce soit de l'escalade, même si c'est aérien, c'est du territoire de l'accompagnateur. Voilà.
Ah, ce qui est tout à fait le cas du Grand Ferrand, donc ouais. pas de problème.
Voilà, tout à fait.
Alors, on poursuit sur cette présentation, cette manifestation.
Alors, donc, on a trois journées. Pendant ce temps-là, pendant que les groupes partent, chacun avec leur accompagnateur, eh bien, il y a deux ou trois d'entre nous qui font les logisticiens de la journée. On va prendre tous les bagages des gens, les tentes de tout le monde, et on va emmener tout ça au premier point de bivouac. On va monter un ou deux marabouts, on va installer des toilettes sèches, on va, préparer...
Préparer l'hôtel dans la montagne.
L'hôtel dans la montagne, le bivouac pour l'emplacement de bivouac pour les 40, 50, 60 personnes qui seront là le soir.
C'est quand même un sacré bivouac, quoi. C'est super luxe.
C'est un chouette bivouac, ouais. Et en plus, c'est même un bivouac que... animé, puisque le soir, il va y avoir un repas festif, mais il va y avoir un spectacle. Cette année, ça va être un spectacle de trapèze fait par quelqu'un du Diwa, Claire Jarja, qui est un Minglon. Puis après, ça devrait pouvoir se prolonger par une scène ouverte. Donc voilà, on n'est pas encore tout à fait couché quand on rentre de la randonnée.
Et on se lève tôt le lendemain.
Quand on dort sous la tente, en général, on ne fait pas la grasse matinée jusqu'à 10h. Ouais, hein.
C'est vrai. Dès les premiers rayons, ça devient difficile. La boucle, par exemple, là, sur le gros itinéraire, vous espérez faire combien de kilomètres dans la journée?
Alors,
combien d'heures de marche?
On va parler en heures de marche. Hein. La plus grosse étape des itinéraires alpins, ça va être la deuxième journée, hein, qui fait bien 8-9 heures de marche. Hein. On va partir au fond du vallon de la Jarjade, puisque ce sera là-bas que ce sera établi le premier bivouac. On va monter en direction du Rocheron, le Rocheron au fond du vallon de la Jarjade, qui est le point culminant de la Drôme.
Oui, hein, rappelons-le.
Voilà, on peut le rappeler au passage. On va aller prendre pied sur les crêtes du Dévoluy. On va suivre toute cette ligne de crête magnifique, avec d'un côté le Dévoluy, de l'autre côté, au pied de la falaise, le vallon de la Jarjade. On va progresser comme ça jusqu'au Rama. On redescendra dans le vallon des Aiguilles, qui est un endroit assez exceptionnel. J'imagine que tous les Diwa connaissent le vallon des Aiguilles.
Voilà. Au-dessus d'une certaine station de ski, vous ne pouvez pas rater.
Voilà. Et après, on passera le col des Aiguilles, on redescendra sur le hameau de la Jarjade. Ça, c'est l'itinéraire pour les balèzes.
Voilà. Et on continue de s'allécher. Qu'est-ce que vous prévoyez comme point, comme sommet de Luce? Qu'est-ce qui va être important?
Disons que la première journée va se dérouler sur les crêtes qui séparent Luce du Trièves, donc avec la pointe Feuillette. Pointe Feuillette, la montagne de paille, donc ces grands paysages d'alpage très ouverts sur le lointain. Sur cette deuxième journée, donc bien, il y a les balèzes qui vont aller donc sur les crêtes telles que je les ai décrites juste avant. Et puis il y en a qui iront prendre des sentiers moins alpins, ce qu'on appelle à Luce le sentier des gardes. Il y en a
qui fait le tour là du
vallon.
Du vallon.
en passant par le permafrost de Combe-Obscur, un endroit extrêmement intéressant d'un point de vue botanique.
Et puis la très belle cascade.
Oui, bah on va dormir au pied de cette cascade.
Magnifique.
Voilà, et puis donc on ira gratouiller là-bas vers le col des Aiguilles, plus ou moins haut selon le niveau du groupe. Et puis le deuxième bivouac sera installé au niveau du hameau de la Gergette. Voilà.
Et enfin le dernier jour.
Et le dernier jour, eh bien les itinéraires, il va y avoir un itinéraire tranquille qui va continuer le chemin des gardes. Qui va retourner sur le village de Luce. Il y aura des itinéraires intermédiaires qui vont grimper au pic de l'Aigle. Il y en a même qui, au passage, feront la Via Ferrata de la Berche. Voilà. Et puis, les Cadors, eh bien, ils iront passer le Pas de l'Âne, qui est à 2100, là-bas, sous la tête de Garnesier, pour aller faire toute la magnifique crête qui ramène sur le Chamousset, avant de redescendre sur Luce. Voilà.
Ah, quel beau programme.
Ouais, on en a plein les pattes, hein, à la fin. Hein. Oh là là.
Je suis content parce que j'en ai quand même déjà fait pas mal de ces noms-là.
Ah, bravo.
L'Aigle, le Chamousset, c'est bon. Bon, mais on n'a pas cité le Grand Ferrand, donc j'ai bien fait d'en parler avant.
Oui, mais le Grand Ferrand... ça aurait été. On sortait des limites du Diois. Hein,
oui, c'est vrai, il n'y est plus. Voilà, c'est ça. Bouh, point. Voilà, au revoir. Tu n'es pas chez nous. Très bien. Bon, écoutez, maintenant, on va passer à peut-être des contacts. Comment est-ce qu'on s'inscrit à vous rejoindre pour ces 3 jours?
On a une adresse mail qui est transdiwaz2014@gmail.com. Cette adresse mail, vous pouvez demander les bulletins d'inscription, les fiches techniques, etc. Voilà, vous pouvez accéder aussi sur le site des accompagnateurs en montagne du Diwa, le site randodiwa.onlc.fr. Il y a une page sur le site qui est consacrée à la Transdiwaz 2014. Et à partir de laquelle vous pouvez éditer la fiche technique de la manifestation. Voilà, sinon un numéro de téléphone 06 77 80 58 56. Eh bien, bienvenue à vous tous.
Et merci pour cette présentation. Est-ce qu'on a oublié quelque chose?
Ouais, pas des moindres, parce que cette édition de la Transdiwaz est assez particulière par rapport aux précédentes. Pour le point suivant, qui est qu'on a élargi un peu le champ de la rando aux autres activités professionnelles, entre guillemets, de la montagne, quoi, entre guillemets, non, de vrais professionnels.
Mais ce que je veux dire par là, Via Ferrata, justement.
Oui, alors ça, c'est un de nos collègues très, très connu, le fameux Mickey, Stéphane Emmer, qui est aussi... moniteur brevet d'état de spéléo et qui va du coup avec ce diplôme là pouvoir encadrer la Via Ferrata. Il n'y a pas seulement ça, même si c'est déjà un énorme événement en soi, spécial dédicace. Il y a aussi ce qui est proposé, c'est un parcours en VTT assisté par électrique. Après, on a Des Rêves et Descentes qui est en collaboration avec nous là, pour faire partager la rando aux handicapés. Et puis, tu pourras peut-être citer les noms de la structure Louise qui s'occupe des randonnées pédestres.
Équestres.
Équestres, voilà. Oui, pardon.
Ouais. En fait, donc la Transdiwaz est organisée par l'Association des accompagnateurs en montagne du Diwa. Il y a certains autres professionnels de la montagne sur Luce et qui, jusqu'à maintenant, n'étaient pas raccrochés à cette structure associative. Et le fait que la Transdiwaz aille sur le territoire lussois était l'occasion de faire un petit signe à ces autres professionnels. Donc Jérôme est lussois, il est accompagnateur en montagne et il a la qualification VTT.
Jérôme Hervé.
Non.
Parce que lui aussi, non. Il est accompagnateur.
Lui aussi est accompagnateur. Lui, il interviendra en compte.
Voilà, sur, c'est ça. Voilà, sur, c'est comptes sur les ouais. comptes et la rando.
Voilà.
Bon, comme ça, c'est cité aussi. Voilà.
Mais non, c'est Jérôme Payot qui travaille essentiellement avec des VTT et qui propose sur la saison d'été des VTT à assistance électrique. Et donc, il se propose de vivre la Transdiwaze avec des VTT à assistance électrique. Donc, ils feront beaucoup plus de chemin que nous à pied. Je n'ai pas encore testé le VTT électrique, mais il paraît que c'est assez fabuleux. Hein. Voilà. Donc, si vous avez envie de vivre cette expérience, de partir dans la montagne avec un VTT à assistance électrique, inscrivez-vous à la Transdiwaze dans cette option VTT électrique. C'est une occasion rêvée de découvrir... cette manière de pratiquer le VTT. Et puis, il y a une autre professionnelle de la montagne qui est Louise, qui a un ranch à la Jarjat et qui va proposer sur 2 jours, enfin 2 jours et demi, de faire l'itinéraire à cheval avec l'idée de l'ouvrir essentiellement aux jeunes, enfants, adolescents, jeunes adultes, qui sont locaux, sur le Diwa ou sur la vallée du Buëch ou sur le Trièves. Et c'est la raison pour laquelle, pour les cavaliers, le rendez-vous, il ne sera pas le vendredi matin, mais il sera le vendredi soir, de manière à ce que tous ces jeunes aient le temps de finir leurs obligations scolaires avant de partir à cheval.
Et qu'ils aient le temps de revenir en bus, tranquillement. Ok.
Voilà.
Et justement, ça, c'est... Là, j'entends que c'est un peu nouveau. On peut imaginer que les Transdiwaze, maintenant, vont essayer de voir qu'est-ce qui se passe à chaque fois dans les lieux où vous allez être.
Alors, bah après, la prochaine Transdiwaze, logiquement, elle va partir de Luz et elle suivra les crêtes en direction de Valdrome. On n'a pas encore déterminé entre nous quel sera l'itinéraire. On va en discuter bientôt.
C'est sur le feu.
C'est sur le feu, oui. Voilà. Cette année, sur Luz, c'était un petit peu particulier parce que effectivement, il y a un bassin d'activité montagne sur Luz qui est quand même
qui paraît
conséquent.
Évident d'ailleurs. Même.
Oui. Bah, le territoire est quand même un petit peu particulier pour ça. Il a quelques atouts.
On verra alors. Mais en tout cas, je vais envoyer que si des gens pensent à quelque chose autour de Valdrome, ils pourraient s'associer alors finalement.
Voilà, mais peut-être ce qui est en discussion entre nous, c'est peut-être quelque chose qui sera plus orienté sur un apport culturel, créatif, land art ou voilà. Mais bon, tout ça, c'est pour le moment, ça reste du mystère.
Florian, tu veux dire ?
Ouais, il y a un dernier détail, c'est pour dire que c'est vraiment une édition assez spéciale, c'est qu'il y a les enfants de l'école de Châtillon qui vont nous faire la surprise, du moins au groupe de randonneurs, sur la première journée, de lire des textes de Giono qu'ils ont étudiés en classe.
Et de faire part un petit peu de leur travail et de leur connaissance sur l'environnement, le milieu traversé. Merci aux élèves de l'école de Châtillon. Ils vont nous donner un petit coup de main pour l'animation de cette première journée, le vendredi 13 juin.
Transdiwaze donc, du 13 au 15 juin, à Luz-la-Croix-Haute, autour de la Jarjat, autour de Luz, avec vous, accompagnateur en montagne.
Ouais, et au sein de l'association des accompagnateurs, on est bien nombreux. Hein. Là, on ne pourrait pas citer tous les noms. À chaud comme ça pour mais voilà c'est vraiment
c'est important ça
dans ce collectif
de se lier justement entre vous.
Oui, je dirais bon, maintenant ça fait un petit bout de temps quand même que je suis accompagnateur et je dirais une des difficultés du métier c'est que c'est un métier comme je disais un petit peu tout à l'heure, on est chacun à inventer notre métier dans notre secteur, on est chacun à vendre notre personnalité et du coup c'est un métier où on crée chacun de notre côté. Et là, pour la Transdiwaze, eh bien, dans le cadre de cette association, on crée tous ensemble. Et pour nous, c'est magnifique. Quoi. Voilà. C'est un bol d'air un petit peu. C'est voir les
collègues, voir comment ils travaillent. Tiens, lui, c'est fabuleux ce qu'il fait. Voilà, on a beaucoup de plaisir à travailler ensemble et à... Je dirais, on s'enrichit les uns les autres. On n'est pas, bon, il y a des territoires qui sont plus chauds au niveau tourisme, où il y a un peu plus de, voilà, des ambiances stations de ski, concurrence entre accompagnateurs, où le territoire du Diwa, il n'est pas du tout comme ça. Il n'est pas du tout comme ça. Il y a une belle collaboration et on est tous suffisamment différents pour que ce que l'on ait à proposer soit très différent de l'un à l'autre.
C'est beau, cette association. Non mais si, c'est tellement bien dit. Ouais, ouais, voilà. Ça donne envie de retourner randonner.
Merci. C'est le but.
Merci Florian, merci Philippe pour cette présentation de la Transdiwaze. Je leur dis rendez-vous le 13 juin à Luz pour 3 jours d'affilée autour de la randonnée. Rendez-vous avec vous quand vous voulez pour présenter la prochaine ou faire un bilan de celle-ci. Hein.
Mm-hmm. Bien volontiers.
À la radio. Voilà.
Et puis, petite chose qu'on a oubliée, ouais. À la Transdiwaze, le casse-croûte, c'est pas mal.
N'oubliez
il
pas
est bichonné.
Votre... Ah non.
Non, c'est nous qui nous en occupons. Et c'est un moment sympa.
Non, mais franchement, moi, je viens d'entendre un espèce de caviar de la rando. Hein, donc, vous venez, à la limite, il faut venir avec ses chaussures, son habit. Et puis, tout le reste, c'est fait. Quoi. Jusqu'au casse-croûte.
Non, vous venez quand même avec votre tente, votre matelas, et on se charge de les transporter. C'est pas comme avec les mules. Là, c'est... Ouais. Chacun apporte quand même son matériel de bivouac.
Bon, et pas une tente achetée, là.
Et les tentes de seconde, elles sont très bien, mais pour quand on campe à côté de la voiture, parce que parce qu'elles rentrent dans le coffre de la voiture, mais pas dans le sac à dos.
Voilà, c'est ça. Et puis donc, il y a une fiche technique hein, sur le site, comme ça les gens pourront voir. Merci à tous les deux et à bientôt sur notre antenne.
Merci de nous avoir accueillis.
Au plaisir.
Hey, the bird.
L'interview du jour. L'interview du jour.